Vous écoutez Made in Belgium, un podcast La Première.
D'habitude, mon job, c'est de vous informer le week-end à la télévision.
Le 19h30, Laurent Mathieu.
Bienvenue dans ce...
Et il faut être honnête, mon job consiste parfois à vous annoncer de mauvaises nouvelles.
Un gigantesque incendie, notre quotidien va à nouveau être bouleversé dans les semaines qui viennent.
Surtout quand on parle d'économie.
Une centaine de travailleurs vont perdre leur emploi.
Alors dans ce podcast, je vous propose de faire l'inverse. On va aller à la rencontre des entreprises belges qui fonctionnent, qui s'exportent, qui font rayonner notre pays partout dans le monde. On vous emmènera dans le secteur de l'industrie, des services, dans le monde des arts et du spectacle, celui du sport. On vous emmènera même dans l'espace. Car le Made in Belgium, ça existe et ça mérite qu'on en parle.
Made in Belgium, Laurent Mathieu.
Imaginez une entreprise belge qui aurait changé le quotidien de millions de téléspectateurs à travers le monde. Ça vous concerne peut-être même directement s'il vous arrive de regarder par exemple du sport à la télévision. Cette entreprise est liégeoise. Elle s'appelle EVS. Et dans cet épisode, nous allons vous expliquer comment elle est devenue leader mondial de son secteur d'activité. Un secteur de niche qui touche pourtant des millions et des millions de téléspectateurs chaque année.
Oui, bonjour, Laurent Mathieu de la RTBF. J'ai rendez-vous avec Nicolas Bourdon pour une interview.
Notre guide du jour, vous l'avez compris, s'appelle donc Nicolas Bourdon.
Voilà, je suis Nicolas Bourdon, je suis responsable produit et marketing chez ES.
Alors, quand vous expliquez à des gens qui ne connaissent rien au secteur des médias, de la vidéo, comment vous leur expliquez le cœur du métier de VS ?
Le cœur du métier de VS, on est fournisseur d'une technologie qui permet de sublimer les moments en direct à la télévision. Donc, notre cœur de métier, c'est de fournir une technologie qui est une technologie informatique, combinant des logiciels à une technologie hardware, donc des serveurs numériques, qui enregistrent des images, donc les images qui viennent des caméras pour la plupart du temps, en direct, et grâce à des logiciels et grâce à des outils utilisés par les équipes de production, on va permettre aux réalisateurs d'amener des moments uniques, tels qu'effectivement ramener des ralentis, repasser une image qu'on n'a pas eu le temps de détecter à l'écran.
C'est notamment pour ça que VS est connu partout dans le monde. Ils ont popularisé le ralenti tel qu'on le connaît aujourd'hui quand on regarde à la télévision un match de tennis, un Grand Prix de Formule 1 ou un match de football par exemple. Alors pour que tout soit bien clair, prenons un exemple. Un moment qui est entré dans la légende du sport, notamment grâce à la technologie de VS.
C'est l'heure de l'arrivée des deux équipes sur la pelouse du stade olympique de Berlin pour la finale de la Coupe du Monde de football 2006.
Nous sommes le 9 juillet 2006. Des centaines de millions de téléspectateurs sont devant leur petit écran. Alors que le match touche à sa fin, un joueur italien s'effondre soudainement sur le terrain.
Que s'est-il passé entre Trezeguet et Materazzi ?
J'espère qu'il ne s'est rien passé.
Moment de flottement. Commentateurs, téléspectateurs, tout le monde se demande ce qui s'est passé. Et puis soudain, quelques secondes plus tard, un ralenti fourni grâce à la technologie d'EVS montre une image qui va entrer dans l'histoire du sport. On y voit Zidane, le capitaine français, asséner un coup de tête dans la poitrine du joueur italien Materazzi.
On voit Zizou. Oh Zinedine, pas ça,
pas du tout avec
pas ça Zinedine, non. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
L'image, le coup de boule de Zidane en 2006 a été vraiment, alors je ne vais pas dire que ça a été un tournant, mais en tout cas ça a fait énormément parler sur EVS parce que c'était, il fallait savoir que c'était une... l'image n'avait pas été reprise par le réalisateur, il n'avait pas vu.
On l'avait pas vu en direct, en fait.
On n'avait pas vu en direct, exactement. Et donc, c'est un des opérateurs qui a pu effectivement retrouver cette image dans les quelques secondes, et parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, il se passait quelque chose, mais personne ne comprenait. Et donc, c'est cet opérateur qui a pu ressortir cette image. Donc, ça a été vraiment un moment clé.
Car si aujourd'hui, le fait de pouvoir fournir des ralentis quelques secondes seulement après une action et sous plein d'angles de caméras différents semble une évidence, ça n'a pas toujours été le cas. Et ce sont donc des Liégeois qui ont changé la donne. Alors pour bien comprendre, revenons à la jeunesse de VS au milieu des années 90.
Oui, 1994, c'est au départ deux personnes, Pierre Loest et Laurent Minguet, deux amis d'enfance, un architecte et l'autre ingénieur civil qui passionné de vidéo et décide d'organiser, de monter une société spécialisée dans le monde de la vidéo. Alors au départ, après plusieurs tentatives infructueuses, ils finissent par effectivement mettre au point une technologie informatique qui permet d'enregistrer et en même temps de rejouer une image sans arrêter l'enregistrement. Alors aujourd'hui, évidemment, toute la technologie numérique, les ordinateurs font ça, on se pose plus la question, mais à l'époque, c'était une véritable prouesse. Et à savoir que dans le monde de la télévision, on utilisait des cassettes VHS pour pouvoir effectivement enregistrer le contenu. Et puis, on arrêtait l'enregistrement, on repassait l'image. Et donc, évidemment, le choix de rejouer les images était très limité, puisqu'on était limité au nombre de cassettes qu'il y avait. Et donc, ces deux hommes se sont associés à une troisième personne, Michel Counson. Et cette association de trois personnes, associée à pas mal de monde, beaucoup de jeunes qu'ils ont recrutés à l'époque, qui sortaient de l'université ou de différentes écoles spécialisées dans le monde du broadcast, ont réussi une prouesse qui était celle de détrôner des acteurs tels que Sony ou Panasonic qui étaient accrochés à leur monde de la cassette, qui ramenaient beaucoup d'argent grâce à la cassette. Et donc effectivement, c'est au départ d'ailleurs une collaboration avec la RTBF, avec des premiers ralentis sur un grand prix de Francorchamps. Et en 1996, vraiment un décollage, puisque c'est les Jeux Olympiques Atlanta où le système de ralenti a été utilisé pour la première fois sur des Jeux Olympiques, ce qui a été une vitrine évidemment extraordinaire à l'entreprise.
Mesdames et messieurs, la flamme olympique s'approche maintenant du stade.
Avec le coup de projecteur des Jeux Olympiques d'Atlanta, EVS va rapidement s'imposer dans le secteur des médias. En diversifiant son activité sport, variété, information, la firme liégeoise va profiter de la révolution numérique pour proposer ses services à de nombreux médias partout dans le monde. Ce qui en fait aujourd'hui le leader mondial de son secteur.
Alors aujourd'hui, VS, c'est une société qui avoisine 630 personnes à peu près en termes de nombre de personnes. 300 personnes à Liège, qui est le headquarters mondial. Donc on a une vingtaine de bureaux dans le monde. 5 centres de développement, tous en Europe. Donc le plus gros centre de développement software et hardware se trouve à Liège, mais on a des sites sur Bruxelles, Paris, proximité de Londres également, et un gros centre en Hollande également. Nous avons, en termes de chiffre d'affaires, effectivement, on a un chiffre d'affaires 2023 autour de plus de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une grosse croissance. On annoncera nos résultats dans quelques semaines, mais qui devrait avoisiner les 170 millions de chiffre d'affaires. Donc on voit qu'on est dans une véritable phase de croissance.
Qui sont vos concurrents ? Est-ce que ce sont des entreprises qui font le même boulot que vous, mais ailleurs ? Ou alors est-ce que ce sont justement les grandes plateformes, Amazon, Netflix, que sais-je, qui risquent de développer cette technologie-là en interne ?
Donc aujourd'hui, on n'a pas de concurrence venant de ces acteurs-là. Donc on a plutôt effectivement un partenariat, soit même une relation de client-fournisseur, puisqu'effectivement on est client de certains de ces gros acteurs du marché. Donc on ne les voit pas aujourd'hui comme un concurrent, même si effectivement on est attentif à ce qui se passe et au changement de plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Je dirais aujourd'hui, on a un certain nombre de concurrents actifs sur différentes catégories de produits. Si je prends le monde du ralenti, c'est relativement limité. On les voit plutôt arriver sur justement des petites productions automatisées, ce genre de choses, donc plutôt sur du low cost. Mais on n'a pas véritablement de gros acteurs face à nous.
Reste la question de l'avenir. Les technologies liées à l'image sont en révolution constante depuis 30 ans. Alors vers quoi se dirige-t-on dans les décennies à venir ?
Si je dois vous projeter dans 50, 60 ans, imaginons qu'on regardera un match de tennis à la télévision, qu'est-ce qui aura changé ?
Waouh, ça c'est un fameux saut, mais je dirais que nous, ce qu'on pense, ce qu'on voit arriver, c'est de plus en plus des technologies qui vont permettre d'être de plus en plus personnalisé le contenu. Donc aujourd'hui, on fait une distribution vers des audiences très larges, donc ce qui sera toujours le cas, mais on pense qu'effectivement chacun va utiliser sa propre plateforme, donc que ce soit des tablettes, téléphones ou autres types de devices qui seront mis à disposition dans le futur, et de pouvoir créer sa propre expérience, avoir son propre commentateur, avoir son propre résumé en fonction des joueurs que lui apprécie, avoir peut-être de pouvoir avoir à travers une caméra embarquée ou simulée à travers l'intelligence artificielle, de pouvoir se mettre dans les yeux de la personne au moment d'un goal ou d'une action clé.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour avoir des matchs de football, par exemple, qui sont filmés tout seuls par des caméras, qui sont montés en direct par des IA sans qu'il y ait intervention humaine?
Oui, c'est tout à fait possible. On a déjà testé d'ailleurs, donc on sait que ce genre de technologie permet de le faire. Maintenant, ce qu'on ressent, c'est que d'abord, on pense que aujourd'hui l'intelligence artificielle va permettre de le faire pour un certain nombre de productions qui aujourd'hui ne peuvent pas, un certain nombre de matchs qui peuvent pas être produits simplement pour des raisons de coût. Donc on pense que justement l'intelligence artificielle va nous permettre d'être utilisée pour des productions à moindre coût et pouvoir effectivement toucher un public peut-être moins important, mais qui a un intérêt pour effectivement avoir ce genre de production. La qualité sera moindre, certes, mais on voit effectivement un intérêt effectivement pour ce genre de choses où l'intelligence artificielle va permettre. On considère à côté de ça que l'intelligence artificielle va proposer d'automatiser, par exemple, des résumés qui vont aller sur les réseaux sociaux. Donc, et donc attirer le téléspectateur pour revenir vers l'écran principal en ayant effectivement des résumés envoyés automatiquement à travers l'intelligence artificielle.
En attendant, cette année 2024 s'annonce bien chargée pour EVS, car il y a pas mal de grandes compétitions sportives au programme, comme les Jeux Olympiques ou l'Euro de football. La presse économique prévoit d'ailleurs une nouvelle année record pour la firme liégeoise. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous verrez apparaître un superbe ralenti sur votre écran de télévision, vous saurez qui l'a rendu possible. C'était Made in Belgium, un podcast de La Première.